Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Face au sexisme, nous ne nous tairons plus. C'est l'appel lancé aujourd'hui par 17 anciennes ministres. Dans ce journal, on entendra l'ancienne garde des Sceaux, Marie-Lise Lebranchu. Bernard Cazeneuve à Rennes ce matin. Le ministre de l'Intérieur est venu soutenir les forces de l'ordre au lendemain de la manifestation interdite contre les violences policières. Cinq ans, jour pour jour, le 15 mai 2011, naissait le mouvement des indignés en Espagne. Reportage à suivre à Madrid alors que nuit debout et les indignés appellent à une journée mondiale de protestation. Nous irons aussi à Berlin où des universitaires et des chefs d'entreprise portent plainte contre la Banque Centrale Européenne. Décryptage des raisons de la colère dans un instant avec notre correspondant à Berlin, Cyril Sauvageau. Et comme chaque dimanche, on retrouvera à la fin de ce journal Nabila Hamel pour la face cachée du Globe, un autre regard sur l'actualité internationale. L'impunité, c'est fini. C'est la promesse de 17 anciennes ministres dans un appel publié ce matin dans le journal du dimanche. Après l'affaire Denis Baupin, ces femmes politiques veulent la fin du silence autour de cette violence trop souvent méprisée. C'est ce qui a poussé la socialiste Marie-Lise Lebranchu, ancienne ministre de la Justice, à signer cette tribune.
On est au 21e siècle, c'est fini le Moyen-Âge. Il faut arrêter, donc il faut qu'on s'organise pour donner du courage, pour parler bien évidemment, mais aussi... Pour dire, nous, déjà, nos portes sont ouvertes. Si quelqu'un craint d'aller voir un procureur, craint d'aller voir un conseil, un avocat, on est déjà là et on sera de plus en plus nombreuses et nombreux à être là pour donner le coup de main, parce qu'il faut protéger, il faut secourir en même temps. Et je pense que le service public doit pouvoir organiser ce relais entre la personne qui a cette difficulté, qui a besoin d'en parler simplement, et pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire sans mettre en danger sa vie professionnelle. Parce que j'entends bien, moi, que c'est ça qui, quand même, ralentit le plus le progrès. C'est la peur de perdre son boulot ou la peur d'avoir une carrière qui ne soit pas à la hauteur de ce qu'on avait le droit, en termes de compétences, d'attendre. Donc voilà, il y a du travail. Maintenant, on lance ça. Je rappelle qu'on l'avait déjà lancé il y a quelques années, quand Dominique Voynet avait été... odieusement mise en scène par des dessins absolument obscènes, mais il y a plein de cas dont on a déjà parlé. Maintenant, il faut qu'on réussisse à mobiliser tout le monde, hommes et femmes. Il faut que ça cesse, quoi. Il y a trop de cas que l'on connaît, dont on nous parle, où des femmes ont été obligées de résister au-delà de ce qui faisait leur force.
Marie-Lise Lebranchu, ex-garde des Sceaux, avec Camille Marigot. Et parmi les autres signataires, on peut voir notamment Christine Lagarde, Aurélie Filippetti, Elisabeth Guigou, Valérie Pécresse et Roselyne Bachelot. Bernard Cazeneuve a salué les forces de l'ordre ce matin à Rennes au lendemain de la manifestation interdite qui a pourtant réuni plusieurs centaines de personnes contre les violences policières. Le ministre de l'Intérieur annonce l'envoi de 88 agents supplémentaires en renfort dans le département d'Ille-et-Vilaine d'ici le 1er septembre. Bernard Cazeneuve déclare vouloir garantir le droit de manifester en écartant les casseurs.
La liberté de manifestation, y compris dans l'état d'urgence, est encadrée par le droit. Et l'état d'urgence a été mis en place pour protéger les libertés publiques. Le respect des libertés publiques suppose le respect de principes clairs. J'ai demandé au préfet qu'à l'occasion de chaque manifestation, un contact soit pris avec les organisateurs de telle sorte à ce que le déroulement des cortèges soit préparé avec ces organisateurs de telle sorte à garantir que les manifestations pourront se dérouler dans le respect rigoureux de la sécurité de chacun et de l'ordre public. Et j'appelle donc chacun qui est désireux que ces manifestations se déroulent dans de bonnes conditions à accepter ces contacts. Mais lorsque des rassemblements sont annoncés, qui ne relèvent pas de la volonté de revendiquer, mais de la volonté assumée de casser, c'est-à-dire que lorsque des manifestations de casseurs sont prévues et annoncées sur les réseaux sociaux, alors il est du rôle de l'État de les interdire. Parce que si le droit de manifester est sacré, il n'y a pas de droit de casser.
À Rennes, il y a deux semaines, un jeune étudiant a perdu un œil en recevant un projectile, un tir provenant des forces de l'ordre selon des manifestants. Alors qu'à Nantes, un lycéen qui participait à une manifestation est mis en examen pour tentative d'homicide envers un policier. L'agent a été frappé à la tête à coups de pied et à coups de barre de fer le 3 mai dernier. Le jeune homme de 18 ans a été placé en détention provisoire. Les indignés espagnols et Nuit Debout appellent à une journée de mobilisation en Europe et dans le monde aujourd'hui. Le mouvement des indignés est né il y a 5 ans, jour pour jour. Alors que reste-t-il de ces idées, de ces rêves? À Madrid, le reportage de Marilène Ballestero.
5 ans plus tard, les slogans n'ont pas changé et l'émotion reste intacte. La Puerta del Sol est devenue le symbole de la contestation populaire. Jonay était présent le 15 mai 2011 lorsque tout a commencé. Il se souvient avec émotion des débuts du mouvement du 15 mai, connu ici comme le 15M. Comme le reste de ses camarades indignés, il est très actif dans son quartier. Jonay revient sur ses 5 années de mobilisation citoyenne.
Le bilan, je peux le résumer en une phrase. L'énergie, on ne peut ni la créer, ni la détruire, juste la transformer. On a assisté à une mutation permanente. Pendant ces 5 ans, l'énergie générée et la force des gens n'ont fait que grandir. Le tissu collectif s'est revitalisé et sur le plan individuel, le 15e a redonné le pouvoir aux gens. Il y a une phrase très juste, « Nous dormions et nous nous sommes réveillés », qui résume bien ce qui nous est arrivé à chacun. On ne peut plus faire comme si de rien n'était et rester chez soi les bras croisés en observant la situation qui ne fait qu'empirer.
La mobilisation continue. Aujourd'hui, le 15e fête son 5e anniversaire avec un programme très chargé. Le clou des festivités, cet après-midi à 18h avec une grande manifestation qui aura lieu entre la Place Cibeles et la Puerta del Sol. Des membres du parti Podemos devraient participer à titre individuel, ce qui ne plaît pas vraiment aux indignés qui 5 ans plus tard se réclament toujours à partisans.
Marie-Hélène Ballestero, parmi les thèmes communs à l'appel à manifester aujourd'hui, le respect des citoyens, la défense des migrants, la lutte contre l'austérité et le libre-échange. En Égypte, au moins 152 personnes condamnées hier pour avoir participé à des manifestations non autorisées contre le pouvoir. Condamnations qui vont de 2 à 5 ans de prison. Des universitaires et des chefs d'entreprise allemands portent plainte contre la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. La BCE est jugée beaucoup trop accommodante, notamment en raison des taux d'intérêt négatifs pratiqués en ce moment. Certains lui reprochent de pénaliser les retraités modestes et de favoriser ainsi les partis d'extrême droite. Cette semaine, ils ont porté plainte devant la Cour constitutionnelle allemande. Décryptage à Berlin avec notre correspondant Cyril Sauvageau. Bonjour.
Oui, bonjour. C'est un juriste, professeur de finances publiques qui est à l'origine de cette procédure, comme le révèle ce matin le journal Welt am Sonntag, à la tête d'un collectif de patrons, de chercheurs et d'économistes proches des conservateurs. Il a donc décidé de porter devant la plus haute juridiction du pays l'inquiétude, l'exaspération même d'une partie des Allemands face à la politique de la BCE. Depuis des semaines, des mois même, la colère gronde ici en Allemagne face aux décisions de Mario Draghi, jugé trop laxiste. Le programme de rachat de dette publique lancé en 2015 suscite énormément de doutes et d'incompréhension dans les milieux politiques et financiers. Ce programme fait courir des risques incalculables à la Bundesbank. La Banque centrale allemande estime les plaignants qui voudraient mettre un coup d'arrêt à la participation de l'Allemagne. L'autre motif d'inquiétude, celui qui fait le plus parler, c'est la politique de taux bas pratiquée par la BCE, car elle touche directement au portefeuille du contribuable. Un sujet majeur en Allemagne où l'épargne est très répandue et encouragée pour le financement des retraites. Raison pour laquelle les politiques se sont saisis du sujet. Le ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, qui a toujours défendu l'indépendance de la BCE, a eu des mots très durs, accusant la Banque centrale d'être responsable pour moitié de la montée du parti populiste AfD en Allemagne. Chez les conservateurs, Mario Draghi est devenu l'homme à abattre et beaucoup militent déjà pour que son successeur à la tête de la BCE en 2019 soit un Allemand, ou en tout cas quelqu'un qui puisse comprendre et défendre un peu mieux les intérêts de l'Allemagne.
Merci Cyril Sauvageau, notre correspondant en direct de Berlin. Jean-Marc Ayrault tente de convaincre Israéliens et Palestiniens de relancer le processus de paix. Mais ce matin, Benjamin Netanyahou a mis en doute l'impartialité de la France. Il l'a dit au ministre français des Affaires étrangères. Le Premier ministre israélien rejette le vote de Paris à l'UNESCO à propos du patrimoine culturel de Jérusalem-Est. Une décision qui ne reconnaît pas le lien entre le peuple juif et le mont du Temple, selon lui. Jean-Marc Ayrault doit également rencontrer aujourd'hui Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Au moins 25 morts au Yémen aujourd'hui, un attentat suicide qui visait le centre de recrutement de la police dans le sud-est du pays, une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Il est presque 12h40 sur France Culture, l'heure de retrouver la face cachée du globe avec vous, Nabila Hamel. Bonjour Nabila.
Bonjour Sophie. Cristina Kirchner, l'ancienne présidente argentine, a été inculpée vendredi pour préjudice à l'État. La justice lui reproche une opération de spéculation sur les taux de change menés par la Banque centrale en 2015, pendant les derniers mois de son mandat. Son ministre de l'économie de l'époque est lui aussi inculpé. De l'ONU à la FIFA, Fatma Samba Diouf Samoura vient d'être nommée secrétaire générale de la FIFA, soit le numéro 2, et c'est une première pour une femme. À 54 ans, dont 21 passés à l'ONU, cette Sénégalaise d'origine compte bien redorer l'image de la planète foot écornée par les scandales financiers. Ses proches affirment qu'elle a un culot incroyable et qu'elle ne sera pas un faire-valoir. À signaler au passage que le monsieur réforme de la FIFA, le Suisse Domenico Scala, vient de démissionner de son poste. La fête du président. Il fallait y penser, le président tadjik l'a décrété. Ce sera le 16 novembre pour célébrer son expérience politique et son énorme contribution à la paix. Fin de citation. Ce n'est pas la première initiative à la gloire du chef de l'État tadjik, dont les agissements en matière de corruption et de répression sont régulièrement pointés du doigt. Le Burundi est plongé depuis un an dans une grave crise politique. Elle a été déclenchée par la candidature, puis la réélection contestée du président Nkurunziza. Depuis, entre attentats, arrestations et rafles, l'ONU a alerté à maintes reprises sur une ethnicisation du conflit. David Gukunzi, opposant burundais en exil, suit avec beaucoup d'inquiétude cette nouvelle dérive dangereuse dans la région des Grands Lacs.
La situation est extrêmement grave. Des observateurs ont parlé de risque de génocide. Je pense ici, par exemple, à Beate Klarsfeld, de retour de mission de Bujumbura. On a les signes qui sont là. On a une miliciarisation de la société avec les milices du pouvoir, les Imbonerakure, qui sont partout. On a l'armée qui est déstructurée avec la mise en place des commandements parallèles qui n'obéissent qu'au président. Et évidemment, on a des meurtres tous les jours, des rafles de jeunes Tutsis, des rafles de jeunes opposants Hutus, et la torture qui est devenue une institution quotidienne, et les disparitions des gens qu'on enlève tous les jours et qu'on ne revoit plus jamais. Certains parlent de plus de 1000 victimes aujourd'hui déjà, d'autres parlent de 2000 morts, et au niveau des détenus, on a plus de 6000 jeunes dans les prisons, et en dehors du Burundi, il y a déjà plus de 150 000 réfugiés. Donc on est devant une dérive qui semble inexorable, qui rappelle vraiment, pour ceux qui connaissent l'histoire, le Rwanda à la veille du génocide, le discours de haine, la répression, l'ethnicisation dans le discours et les meurtres tous les jours. Les gens vivent dans la terreur. C'est vraiment l'enfer au quotidien aujourd'hui.
La sécheresse continue de faire des ravages dans plusieurs états de la Fédération indienne. Pas de pluie, pas de récolte. La Banque mondiale estime que l'Inde compte le plus grand nombre d'enfants mal nourris au monde, pratiquement le double de l'Afrique subsaharienne. Antoine Guinard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à New Delhi, où la Cour suprême vient d'ordonner de poursuivre la distribution de repas gratuits aux enfants pendant les vacances scolaires.
Oui, les écoles publiques indiennes, dites gouvernementales, offrent déjà des repas de midi gratuits à leurs élèves en temps normal. Mais étant donné la gravité de la situation, la Cour suprême a ordonné que ces repas continuent à être distribués pendant les vacances scolaires d'été, afin de soulager les plus pauvres dans les régions affectées par la sécheresse. La plus haute instance de justice a d'ailleurs mis en garde les régions, affirmant qu'elles ne pouvaient, je cite, « se cacher derrière un écran de fumée » en évoquant un manque de ressources. En plus des repas de midi, les gouvernements des États indiens affectés par la sécheresse ont été sommés de débloquer les fonds qui leur sont alloués par New Delhi pour la gestion des catastrophes naturelles, notamment pour la perte des récoltes, et aussi d'appliquer les programmes de garantie à l'emploi destinés aux régions rurales pauvres. La Cour suprême s'en est pris aux régions, mais aussi au gouvernement fédéral à New Delhi, qu'elle a accusé ni plus ni moins de se laver les mains de cette situation alarmante.
Des mesures prises donc en direction des plus jeunes, mais c'est pratiquement un quart de la population indienne qui souffre de cette situation.
On estime en effet que plus de 330 millions d'Indiens sont affectés par la sécheresse cette année. Une centaine de personnes sont décédées à travers le pays pendant la canicule, alors que les températures dépassaient déjà les 40 degrés Celsius en avril. L'ensemble des 91 grands réservoirs d'eau du pays, qui servent à l'irrigation, ne sont remplis qu'au quart de leur capacité. Dans l'état du Maharashtra, dont Bombay est la capitale et qui est une des régions les plus touchées, un train transportant 2,5 millions de litres d'eau a été affrété le mois dernier pour distribuer en urgence de l'eau potable. C'est une première en Inde. Depuis le début de l'année, plus d'une centaine d'agriculteurs se sont suicidés à cause de mauvaises récoltes. Il faut rappeler que depuis deux ans, les précipitations sont bien en dessous de la normale pendant la mousson, de laquelle dépend plus de la moitié de la superficie agricole du pays.
J'espère que Paris gagnera beaucoup de titres sans Ibra, même si cela sera difficile. Propos prononcés hier soir par celui qui dit partir du PSG comme une légende. Et pour forcer, aller un tout petit peu le trait, il répondra à une question sur son meilleur souvenir à Paris, le jour où l'on a remplacé la Tour Eiffel par ma statue, avant de reprendre et d'ajouter cette dernière soirée au Parc des Princes. À dimanche prochain.
Merci Nabila Hamel. Le temps, alternance de nuages et d'éclaircies cet après-midi. C'est couvert sur le nord, la Bretagne et la région parisienne. Température fraîche comprise entre 11 et 21 degrés.